Villiers de l'Isle-Adam, la légende de l'éléphant blanc. L'an dernier, Lord W. résolut de doter le Zoological Garden d'un véritable éléphant blanc. Fantaisie de grand seigneur. Lord venait d'acquérir à grands frais un éléphant gris poussière, clairsemé de taches rosées. Mais cette prétendue idole indo-chinoise n'était à dire d'experts que de qualité douteuse. D'après eux, le prince birman, qui, moyennant 1 000 000, l'avait accordé à l'avisé Barnum, avait dû, pour surfaire l'animal, feindre le sacrilège de ce trafic, ou plutôt, si le Zoological Garden avait accordé la moitié seulement de ce prix, le fameux puffis devait être à coup sûr maintes fois rentré dans ses réels débours. En effet, si dans plusieurs parages de la Haute-Asie, tel pachyderme de cette espèce plus que rare est revêtu du caractère sacré qui lui confère une souveraine valeur, c'est au seul cas où, dûment albinos, il n'éveille que l'idée très pure d'une ambulante et intacte colline de neige. Quant aux éléphants de couleur imprécise ou mouchetés de tare quelconque, ils n'y sont honorés que d'une superstition très vague, sinon tout à fait nulle. Lord W., donc par orgueil national, conçut pour en finir le dessein d'enrichir l'Angleterre, mais incontestablement cette fois, de la vraie bête auguste réputée introuvable. L'idée lui en avait été suggérée par la secrète confidence d'un grand touriste de ses amis. Celui-ci, déterminé voyageur, s'était aventuré de longues années au profond de ces mystérieuses forêts qu'arrose ce Nil birman aux sources tartares, l'Irrawaddy. Or, affirmait-il, au cours de ses explorations à travers les villes perdues, les ruines mortes des temples, les rivières, les lumineuses vallées du Minnapore, il était advenu par une certaine belle nuit d'entrevoir, dans la lueur d'une clairière peu distante d'une vieille ville sainte, le mystique éléphant blanc, dont la couleur se confrontait avec le clair de lune et que promenait en chantonnant des prières un hiératique maout. Sur une carte spéciale était marquée vers le 22e degré de latitude la cité reculée aux environs de laquelle il avait relevé l'insolite apparition. On sait qu'en Birmanie, les éléphants privés ou sauvages sont la propriété de l'empereur qui les réquisitionne en temps de guerre. Il est de coutume inviolable que ce monarque possède un éléphant d'une blancheur idéale, auquel il donne un palais, des officiers et le revenu d'un district territorial affecté à l'entretien de ce personnel. La loi religieuse interdit de laisser sortir de la contrée un seul des 3 ou 4 éléphants et qui ne réalise par siècle le phénomène de l'espèce blanche, car une tradition bouddhique prédit la fin de l'Empire du jour où l'on verrait l'un d'entre eux en d'autres pays. La guerre sanglante de Siam il y a 2 siècles ne fut déclarée que pour la possession d'un de ces fantastiques animaux que le roi de Siam se refusait à céder aux Birmans. Les dernières conquêtes des Anglais, qui viennent d'occuper Mandalay après avoir si longtemps et si patiemment concentré leurs troupes dans les marécages du district d'Assam, seraient compromises dès lors où quelqu'un de leurs délégués réclamerait le tribut d'une colline de neige. Ce serait de tous côtés contre eux une révolte sainte, sans merci ni trêve. Quant aux étrangers, aux particuliers et intrépides qui seraient surpris essayant de dérober un éléphant sacré, nulle intervention ne les préserverait de la plus atroce et de la plus prolongée des morts. Comme on le voit, le projet caressé par le noble anglais présentait diverses difficultés d'exécution. Toutefois, ayant mandé l'illustre dompteur Maïeris et lui en remis la carte ainsi que la nomenclature des dangers inhérents à l'entreprise, il lui offrit, le défrayant lui et ses hommes, une somme de 2 500 000 francs, 100 000 livres sterling, si parvenu à capturer et conduire jusqu'à la mer, à travers les peuplades birmanes, l'éléphant indiqué, l'audacieux Belluaire l'ayant transporté d'Asie en Angleterre, le lui livrait en Tamise, rendu à quai pour le Zoological Garden. Maillerys, d'une main toute traversée par l'écrou de ses lions, s'était pensivement caressé la barbe en écoutant le lore. Mais après un instant de silence, il accepta. Sitôt le traité en poche, quelques jours lui suffirent pour s'adjoindre une demi-douzaine de bas de cuir, d'un sang-froid et d'une expérience à l'épreuve. Puis, en homme pratique, s'étendit que, pour enlever à travers les menaçantes étendues d'un tel pays un éléphant blanc, il était d'abord indispensable de le teindre, le dompteur chercha quelle teinture provisoire pourrait le mieux résister aux intempéries éventuelles, et finit par s'approvisionner tout bonnement de quelques barils de l'eau pour barbe et cheveux la plus en vogue chez les gentry, et une fois toutes autres acquisitions nécessaires terminées, un fort navire marchand fut nolisé pour l'expédition et le transport de la bête. On prévint l'amirauté, des télégrammes furent adressés au gouverneur anglais d'Assam, l'avertissant de prodiguer toute sa bienveillance à la tentative, et l'on partit. Environ 3 mois après, Maillerys et ses compagnons, arrivés depuis longtemps en Asie, avaient rencontré le Sir Tang sur un radeau de madriers construit en vue du rapt qu'il se proposait d'accomplir. À force d'adresse et de bon hasard, ils étaient parvenus, longeant les solitudes à quelques milles de la vieille cité sacerdotale précisée sur la carte révélatrice, et lorsque ces veilleurs, sans cesse aux aguets, eurent eux aussi aperçu l'animal, ils s'installèrent aux alentours de la ville, sur la lisière d'une immense forêt, au bord même du Sirtang. Le radeau, cerclé de caisses d'air et de larges plaques de liège, était couvert de branchages et de feuilles. Amarré contre l'endroit du rivage qu'il prolongeait de plein pied, il semblait un îlot. Pour motiver leur présence et gagner les regards favorables, ils avaient commencé, en simples chasseurs de fourrure, par détruire un couple de ces grands tigres longibandes qui, avec le rhinocéros, terrorisent ces régions. Puis, profitant des bonnes grâces que ce brillant début leur avait attirées, ils avaient su épier distraitement les habitudes en forêt de l'éléphant blanc et de son mahout. Ils s'étaient même acquis en des occasions quelques sympathies de l'un et de l'autre par des signes de vénération et des présents. Donc, le jour où Maillerys jugea le moment opportun, toutes les mesures étant prises, il disposa ses hommes pour l'embuscade. L'éclaircie où l'on se tenait à l'affût non loin du fleuve où l'éléphant venait boire aux clartés des astres était presque toujours déserte, surtout la nuit. À travers les larges feuilles et les lianes pendantes des araignées géants, des mangliers, des palmiers palmyres, les aventuriers aperçurent au loin les dômes aux stellures dorées, les flèches des temples, les marbres des tours de la ville consacrés à l'éternel Gaudama Bouddha. Et cette fois, le merveilleux de cette vision leur sembla menaçant. L'antique prophétie populaire du pays secouait comme une torche au fond de leur mémoire sa flamme superstitieuse. Le jour où d'autres peuples verraient chez eux un éléphant blanc de la Birmanie, l'Empire serait perdu. Le coup résolu leur parut donc en ce moment si dangereux et de risques si sombres que, tout bas de cuir qu'ils fussent, ils convinrent de se faire mutuellement l'aumône d'une prompte mort au cas où ils seraient découverts et cernés, afin de ne pas tomber vivants entre les mains cruelles des talapons de la sacrificature. D'ailleurs, ayant enduit d'huile minérale plusieurs des arbres environnants, ils étaient parés pour mettre le feu dans les bois à la première alerte. Sur le minuit, la psalmodie monotone du mahout s'éleva, d'abord lointaine, puis s'approchant, scandé par les pas massifs de la monture. Bientôt, l'homme et la majestueuse bête apparurent se dirigeant vers le fleuve. Maïeris, qui jusqu'alors s'était tenu adossé sous l'ombre d'un baobab, s'avança de quelques pas dans la clairière. La rencontre du danteur accoutumé en ce lieu solitaire ne pouvait éveiller aucune défiance. Qui donc eût osé rêver l'effrayante extravagance qu'il méditait? Ayant échangé avec le diseur de prière un bon souhait nocturne, il vint auprès de l'animal qu'il flatta de la main, tout en faisant remarquer au mahout la beauté du ciel. Au moment où l'éléphant se penchait vers le fleuve, l'un des chasseurs, se dressant dans les hautes herbes, lui ajusta pour l'assoupir, et avec la rapidité de l'éclair, les ressorts d'acier d'une bonbonne de chloroforme à l'extrémité de la trompe. La bête, en un moment, suffoquée, brûlée, étourdie, agitait en vain de tous côtés son proboscide, brandissant et secouant au hasard l'asphyxiante mais tenace bonbonne. L'aspiration de chaque effort l'engourdissait davantage. Le pieux cornac, la sentant vaciller, sortit enfin de son extase et voulut sauter à terre. Il y fut reçu par Maïeris et l'un des siens, qui en un clin d'œil le bâillonnèrent et le lièrent, pendant que les autres étayaient à droite et à gauche, avec de forts troncs d'arbustes, l'éléphant à présent comateux et plus qu'à demi pâmé. Vite on enleva de la courbure des défenses les ornements d'or, les bracelets de pierreries dont les femmes de la ville les avaient surchargés, et l'on ouvrit les barils. 14 bras expéditifs se mirent alors à le badigeonner de la queue à ses larges oreilles, imbibant d'une double couche de la pénétrante liqueur jusqu'au dernier repli de la trompe. 10 minutes après, l'éléphant sacré, complètement travesti, à l'exception des ivoires, était devenu nègre. L'on profita du moment psychologique où l'animal semblait revenir à soi-même pour l'attirer, docile, vers le radeau. Dès qu'il s'y fut avancé, ses vastes pieds y furent saisir de grosses entraves d'acier fer. L'on déploya la tente au-dessus de lui, en toute hâte. L'on jeta le mahout sur un lit de feuillage, on décrocha les amarres et forever! Maintenant, le rapide courant, plus puissant que deux hélices, entraînait les ravisseurs et leur prise vers les possessions anglaises. Au premier jour, on était à 20 lieues. Encore 2 jours et 1 nuit, et l'on serait hors de toute atteinte. Combien de temps d'ailleurs n'avait-il pas fallu derrière eux pour s'apercevoir de cette disparition, pour les recherches, pour les conjectures, avant d'admettre enfin la possibilité de l'événement. Il était déjà bien tard pour les poursuivre. Quant à ce dérivage, la couleur normale de la capture rendait l'expédition toute simple. L'on charma donc les ennuis de la longue route en retouchant l'éléphant dont la torpeur ne s'était pas encore dissipé. La surprise du mahout avait été plus terrible. Il était mort. Ce fut donc l'affaire d'une pierre au cou le soir qui suivit. Enfin, Maïeris et les siens arrivèrent. Ils étaient attendus. L'apparente noirceur de l'animal avait quelque chose qui impressionnait à première vue. Mais les officiers anglais, comme de raison, gardèrent le secret, et cette fois ce fut sous bonne escorte que l'on atteignit la mer où le navire en panne depuis 2 lunes embarqua l'énorme proie. Lorsque, après une traversée des plus paisibles, les impatients héros aperçurent enfin les côtes de l'Angleterre, suivit un hurrah de joie saluant l'espérance, la renommée, le succès, la fortune. À l'arrivée en Tamise, on pavoisa victoire. Victoire! God protect all England! Un colossal tender du railway suburbain transporta l'animal à peine débarqué aux Horlicall Garden, Lord W. accourut sur télégramme, s'y trouvait déjà chez le directeur. « Voici l'éléphant blanc !» s'écria Maillerys radieux. « Milord, veuillez bien nous délivrer le chèque promis sur la Banque d'Angleterre. » Il y eut un moment de silence, bien naturel, devant la sombre physionomie de la bête. « Mais il est noir, monsieur, votre éléphant blanc !» finit par murmurer le directeur. « Oh, ce n'est rien !» répondit en souriant le docteur. « C'est que nous avons été obligés de le teindre pour l'enlever. » « Alors, s'il vous plaît, déteignez-le, répliqua Lord W., car, enfin, nous ne pouvons pas cramer blanc ce qui est noir. » Le lendemain, Maillerys revint avec les chimistes nécessaires pour procéder sans délai à l'opération. Ceux-ci s'acharnèrent donc à reglotionner aussitôt de réactifs puissants le malheureux pachyderme, qui, roulant ses yeux albinos, paraissait se demander avec inquiétude « Mais, oh, ça compte donc ces hommes à m'humecter de la sorte à chaque instant ?» Mais les acides de la teinture initiale avaient pénétré profondément les petits tissus cutanés du prosbocidien, de sorte qu'en se combinant avec les acides, ces réactifs appliqués à l'étourdi produiraient un résultat inattendu. Loin de reprendre sa teinte natale, l'éléphant était devenu vert, orange, bleu de roi, cramoisi, gorge de pigeon, chatoyé et passé par toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Sa trompe, pareille au pavillon bariolé d'une nation inconnue durant une accalmie, pendait immobile contre le long du mât peinturluré d'une de ses jambes immenses, si bien que dans un saisissement, le directeur émerveillé s'écria « Oh, mais laissez-le de grâce, n'y touchez plus. Quel monstre fabuleux, mais c'est l'éléphant caméléon. Certes, on viendra des bouts de l'univers pour voir cette bête des mille et une nuits. » Positivement, jamais, non jamais, sur la surface planétaire que nous occupons, on a salué pareil être avant ce beau jour. Enfin, du moins, j'inclinerai fortement à le croire. « En vérité, monsieur, c'est possible, » répondit Lord W. en lorgnant aussi l'extraordinaire vision, « mais au terme du traité, M. Maillerys doit me le livrer blanc et non point versicolore. Le blanc seul constitue la valeur morale dont j'offre 100 000 livres. Qu'il lui restitue donc sa couleur primitive ou je ne le prierai pas. Mais comment désormais prouver qu'un tel épouvantail est un éléphant blanc ? » Se disant, Lord W., remettant son chapeau, s'éloigna comme se refusant à toute discussion. Maillerys et ses bas de cuir considéraient en silence le désolant animal qui ne voulait pas blanchir. Soudain, le dompteur se frappa le front. « Monsieur le directeur, demanda-t-il, de quel sexe sont vos éléphants du Zoological Garden ?»« Un seul est du sexe féminin, » répondit celui-ci. « Fort bien !» s'écria Maillerys triomphant. « Croisons-le. J'attendrai les 20 mois réglementaires de la gestation. Le rejeton mulâtre devant les tribunaux fera preuve de la race blanche de celui-ci. »« Ce serait une idée, en effet, » murmura le directeur. Et, ajouta-t-il d'un ton narquois, vous obtiendrez sans doute ainsi un éléphant café au lait, s'il n'était notoire que l'éléphant captif se refuse rigoureusement à toutes les joies de la paternité. Fable, comme leur prétendue pudeur, tout cela, monsieur, répondit le dompteur, on en a là-bas 1000 exemples du contraire. D'ailleurs, les us d'un éléphant blanc sont autres. Pour le surplus, je saupoudrerai, dût-il en périr, sa nourriture des aphrodisiaques les plus violents, et que le sort en décide. Le soir même, le dompteur, tout ravi, se frottait les mains, ayant acquis la certitude de ses nouvelles espérances. Par contre, à l'aurore suivante, la démesurée bête fut trouvée inanimée par les gardiens dans la maison des éléphants. La dose de Ching Sing avait été trop forte. Il était mort d'amour. Soit, gronda Maïeris à cette nouvelle, mais maintenant je puis attendre en sécurité toutes mesures abortives serait une déloyauté dont je sais mes adversaires incapables. Seulement, cette perte de mon capital me porte un coup irréparable, car à la longue, en 3 ou 4 ans peut-être, j'en ai la conviction, sa peau vivante eût repris sa nuance naturelle. Sur ces entrefaites, un ultimatum de Lord W. parvint à Maïeris. L'Anglais lui notifia une fois pour toutes que, s'en tenant au terme du traité, il ne se reconnaîtrait point débiteur pour un éléphant mulâtre, qu'en tout cas, improuvant la mésalliance provoquée, il offrait 5 000 livres d'indemnité pour étouffer l'affaire, en conseillant au dompteur de retourner se procurer un autre éléphant blanc, et cette fois de le moins bien teindre. Bon, comme si l'on pouvait enlever 2 éléphants blancs dans sa vie, grommela le bel air furieux. C'est bien, on plaidera. Mais Attorney et Sollicitor lui ayant assuré la perte de sa cause, Maïeris, en soupirant, se contenta de frapper l'opposition, le rejeton futur de son défunt prisonnier, nomma un curateur, accepta les 5 000 livres pour ses hommes et quitta Londres. Depuis, lorsqu'il raconte avec mélancolie cette aventure, trop fantaisiste pour n'être pas incroyable, il ajoute d'un étrange timbre de voix où semble ricaner on ne sait quels esprits lointains. Gloire, succès, fortune, vapeur et nuages. Avant-hier, un royaume fut perdu pour un coup d'éventail donné, hier, un empire se dissipa pour un coup de chapeau non rendu. Tout dépend d'un rien. Enfin, n'est-ce pas mystérieux? Si la vieille prédiction, si l'augurale menace du dieu de là-bas est digne de la foi qu'elle inspire à tant de millions d'hommes, à quoi donc a tenu l'empire birman? À ceux qu'hélas, au lieu de me prémunir à la légère de cette eau fatale, pour teindre et ravir l'éléphant sacré de Gardana Bouddha, je n'ai pas songé à remplir tout simplement, et comme un symbole, mes lourds barils de fer, d'un peu de noir de fumée.